Je passe la parole à Frédéric Gournay, auteur de Métaphysique du rock, qui va interviewer Jacques-Henri à propos du journal intime de celui-ci qui vient d'être publié. À vous, monsieur Gournay.
Merci Yves Tanré. Oui, nous recevons Jacques-Henri, écrivain, critique, essayiste, auteur du roman et le sacré de Walkman, de l'habitation des femmes et surtout de la peinture et le mal, entre autres. Qui écrit pour le magazine Art Press, hein, qui est une revue de référence dans l'art contemporain, édité avec des textes à la fois en français et en anglais, et qui existe maintenant depuis presque 50 ans. Alors, si Jacques-Henri est avec nous aujourd'hui, si vous l'avez dit, c'est pour son journal intime qui paraît, qui est sous le titre Les Profanateurs, un journal qui couvre les années de 1971 à 2015, et qui raconte les engagements politiques, artistiques, littéraires, les amitiés, les amours, la vie intime et également l'intimité des autres. Bonjour Jacques-Henri.
Bonjour.
Alors, vous avez eu la chance, on peut le dire, de participer à une époque un peu particulière, dans le sens où vous avez certainement été le témoin et l'acteur, sans doute, du dernier mouvement d'avant-garde littéraire en France, à un moment où le cinéma connaît la nouvelle vague, la littérature connaît le nouveau roman, et la philosophie elle-même connaît la déconstruction. Donc c'est une grande période de chamboulement, de révolution, on peut le dire, et vous êtes au cœur de ce moment-là.
Voilà. C'est la chance d'avoir l'âge que j'ai, et la malchance aussi. Il faut bien comprendre que cette génération-là, dont il est question dans mon journal, elle est née avant la guerre. Il ne faut pas oublier ça. Dans tous les conflits qu'on a pu avoir et dans toutes les prises de position, quelquefois très contestables, bon, on connaît l'épisode d'époque communiste, l'époque maoïste, bon, et ensuite la rupture avec la philosophie qui soutenait tous ces mouvements-là. Ce sont des gens, moi je suis né en 38, c'est-à-dire que c'est bizarre, mes parents ils n'ont pas dû calculer leur coup parce que j'arrive moi juste au moment où la guerre commence. Bon. Et les gens dont il est question là, qui sont plus jeunes, hein, pas Solaire s'il est plus âgé que moi, Guyata est un peu plus jeune que moi, on a connu l'occupation, on a connu la libération, ça veut dire, et ensuite ma génération a connu aussi la guerre d'Algérie. Je dis ça parce qu'on ne peut pas comprendre notre histoire si on ne la resitue pas exactement et si on n'essaie pas de comprendre quelles ont été sans doute nos erreurs. Bon, c'est vrai, quand on a été maoïste, c'était pas très... C'était un maoïsme un peu pas très sérieux, quoi. Il y avait les vrais Mao comme Alain Badiou, bon, ça c'était des sérieux. Ou ceux qui se sont engagés après dans des mouvements qui, heureusement, n'ont pas abouti à des groupes terroristes. Ça, la France a été protégée, l'Italie ne l'a pas été, l'Allemagne non plus. Bon, mais enfin, voilà.
C'était une période violente. Donc, il y avait la guerre d'Algérie, il faut rappeler que c'était quand même 3 ans de service militaire pour les appeler, qui partaient en Allemagne et ensuite en Algérie. Donc c'est une période armée où il y a beaucoup de conflits. Et alors vous avez l'honnêteté de reconnaître avoir sévèrement déconné politiquement, vous assumez de coupables dérapages. Alors c'est une honnêteté qui vous honore parce que tout le monde n'a pas eu cette honnêteté.
Oui, et ma différence d'ailleurs avec Philippe Solaire, c'est que moi j'ai reconnu. J'ai pas fait d'autocritique. Mm-hmm. Bon. J'ai pas fait celui qui dit « Oh là là, c'est terrible ce que j'ai fait », etc. Mais il faut quand même assumer aussi ce qu'on a fait, les engagements qu'on a eus. Même si c'était un peu de la rigolade, nos engagements, il y a quand même des moments où on parlait de la Chine et tout, sans savoir très bien ce qui se passait dans ce pays-là. On l'a découvert après. Alors, à la différence de Solaire, ce qui lui dit « Ah non, c'était très bien. On a toujours eu raison. À ce moment-là, il fallait le faire. » Ben non, moi, ça fait partie un peu de nos débats que j'ai pu avoir.
Il y avait aussi des combats légitimes, parce que l'actualité nous le rappelle. Mais c'était une époque aussi il y avait une défense des droits des Palestiniens, il y avait des pro-Palestiniens, et vous montrez dans votre livre que vous, avec d'autres, vous arrivez à prouver qu'on peut être pro-Palestinien sans forcément être antisémite ou antisioniste.
Oui, alors, le début de mon journal, comme vous l'avez vu, la question est tout de suite posée. puisque c'est le moment où je rencontre Jean Genet. À l'époque, on était, les communistes en général, mais enfin, communistes dissidents déjà, oui. On était déjà fascinés par le mouvement des Palestiniens. Le héros, c'était celui qui avait le guerrier, etc.,
le caissier,
qui se battait. Ouais. Bon, c'était nos héros. Bon. Évidemment, le contact que j'ai eu avec Genet, ça, que j'admirais hein, comme écrivain, comme je l'ai fréquenté assez longtemps, puisqu'on devait faire un voyage ensemble pour faire un... c'est le début de mon journal, je devais faire un voyage avec Jean Genet, qui consistait à aller dans les différents camps palestiniens du Moyen-Orient, avec des écrivains que Jean Genet aimait. Alors, il y avait Derrida, il y avait Barthes, il y avait... Guyotta, je crois, il y avait Solers, puis il y avait moi. Bon. Et chacun, on devait aller visiter avec lui un camp palestinien et faire un livre sur l'état des camps. Bon. Donc on était très pro-palestinien. Bon. Mais il y a un moment où tout va basculer. C'est-à-dire qu'on va se rendre compte brusquement que ce combat-là, par exemple, au moment où il y a la guerre contre les Palestiniens pour les faire évacuer des pays qu'ils occupaient illégalement, quand même. Ils avaient été reçus, mais ils les occupaient illégalement. Ça ne marchait plus. Mais surtout, ce qui est apparu, et là, moi, j'ai eu des débats avec, notamment avec mes voisins, avec Denis Roche, avec Paul Thévenin, qui était l'ami d'Antonin Artaud. À chaque fois qu'on me parlait de Genet, et je disais, moi, je le connais bien, je l'ai fréquenté pendant des mois, Genet, il n'est pas seulement anti-sioniste, il est antisémite. Alors là, ça, comment tu peux dire des choses pareilles ? Mmh. Oui, il était... Bon, ça ne l'empêche pas d'avoir été un grand écrivain, mais il était antisémite. Alors, c'était la dénégation autour de moi. Sauf qu'un jour, on s'est aperçu qu'en effet, il y a eu les preuves qu'il était vraiment antisémite. Et bon, ben pour nous, ça a été vraiment... Là, on s'est dit, il y a un truc qui ne va plus, il faut arrêter avec ça. Et donc, il y a eu une rupture, d'ailleurs, avec Jean Genet, avec Derrida aussi, parce que je crois que Derrida était dans le coup. Et au moment où nous, Solers, moi, Guyotta, nous quittions, disons, cette gauche-là et le Parti communiste, nous avons un mouvement inverse qui se produisait, c'est-à-dire que il y avait Derrida, il y avait Paul Thévenin, etc., qui, elle, hop, revenait communiste. Enfin, et donc, d'où les ruptures avec tout ça. Ça fait partie de toutes les bagarres qu'on a eues, qui étaient plus là, politiques que littéraires.
Oui. Hein. Parce qu'il faut rappeler là, ce qui est important à ce moment-là, il y a le groupe tel quel qui se constitue, ouais. Et vous participez à ce groupe, donc c'est Solers, Guyotta, Marcelin Plenet, plus d'autres écrivains du moment. Et on va dire, ça va durer quoi, 10 ans? Et c'est 10 ans d'avant-garde littéraire, de vraies recherches sur le style, sur l'écriture, sur le cœur de l'écriture.
Oui, je dirais qu'à la différence des socialistes, des surréalistes. Bon, les socialistes, ça, pour moi, ne me branchez pas sur les socialistes, parce que là, non. Je vais devenir très méchant. Non, la différence des surréalistes, c'est que les surréalistes, et c'est le cas d'Aragon, évidemment, Aragon est très présent dans mon livre,
oui, vous l'avez
dans
connu.
Mon journal, parce que je l'ai connu, je me suis fâché avec lui, enfin, mais maintenant, je reconnais que c'est un des grands, quand même, parmi les surréalistes, à mon avis, c'est le plus fort. Bon, mais la différence, nous, c'est que... Quand on a débloqué sur le plan politique, on n'a jamais débloqué sur le plan littéraire. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait, par exemple, ce qu'a fait Aragon, à un moment, des poèmes pour fêter Staline ou Maurice Thorez, etc. C'est-à-dire que là, ils ont fait des choses qu'ils n'auraient pas dû faire. Nous, si on regarde, franchement, là, objectivement... On débloquait sur le plan politique, mais sur le plan littéraire ou artistique d'ailleurs, on ne peut rien nous reprocher, parce qu'on n'a pas fait... Moi, je n'ai pas fait des poèmes pour chanter Mao Tse-Tung ou des trucs comme ça, ou les ballets chinois. Bon,
ça, c'est vrai que Solaire, ça traduit du Mao Tse-Tung, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'effectivement, au niveau de l'écriture, elle est restée absolument libre. Et cette liberté d'écriture était liée aussi à un moment, à une révolution sexuelle qui était très importante à cette époque-là. On est après 68. Et ce qu'on voit bien dans votre journal, c'est qu'à travers tous les errements éventuellement politiques ou les recherches avant-gardistes ou d'écriture, il y a un peu le sexe comme boussole.
Oui,
ben qui sert à se repérer.
C'est très bon, ça, c'est très bon, très bon, très bonne boussole. Mais non, ce qu'il faut dire quand même, c'est que tel quel, ça a été. Moi Solers, je l'ai connu. La première fois où je l'ai rencontré, c'était en 65. Je l'ai connu pendant 60 ans, Solers, jusqu'à sa mort. Et je peux dire que dans les dernières années, c'était tous les jours qu'on se voyait. C'était incroyable. Ça a été vraiment une histoire. Bon, alors évidemment, je garde beaucoup d'admiration pour son œuvre, beaucoup d'amitié, etc. Avec quand même beaucoup de points d'interrogation sur ses positions, notamment sur la question. On aura peut-être l'occasion d'en parler, c'est sa passion pour Nab, pour cet antisémite violent et ordurier. Et je n'ai jamais compris, ça c'est insistant dans mon journal. Mmh. Pourtant j'aime beaucoup Solers, mais à chaque fois je me dis, mais pourquoi jusqu'au bout il a défendu ce type, en plus c'est écrivain très médiocre, là ça reste un point d'interrogation. Alors, moi j'ai mes idées.
Bon, on y reviendra, j'ai prévu d'en parler. Donc, on parlait de sexe. Hein. Vous écrivez « Péripéties tantôt cocasses, tantôt poignantes, vécues par des corps singuliers, des âmes très incarnées. »
Ben oui, parce que...
Mais c'était pas évident. Est-ce que c'est une vision... Quand nous, on regarde ces années-là, qu'on n'a pas connues, on se dit « Waouh, quelle période de liberté incroyable !» Est-ce que c'est une illusion rétrospective?
Non.
Où c'était vraiment le cas?
Ah ben non.
Où tout était possible?
Ah, non, tout était possible. En plus, ce que je dis, vivant avec Catherine Millet, qui a écrit La vie sexuelle de Catherine M., qui était un succès absolument mondial, je veux dire, c'était difficile de ne pas être plongé dans cette liberté-là de l'époque.
Mais oui, mais
ça, c'était... Bon, aujourd'hui, on se dit... On a rêvé. Ça, est-ce que ça a existé? C'était possible, ça, quand on voit aujourd'hui où on en est. Hein,
oui.
Je sais pas... m'étendre là-dessus. Mais...
Il y a des très belles phrases aussi sur le désir féminin. Liberté des femmes comme toujours et les hommes que nous sommes, bons gros nounours sexuellement bien empêtrés.
Aligre FM 93.1.
Oui, parce que je tout le monde croit que j'étais anti-féministe, etc. Mais pas du tout, moi. Je suis un féministe peut-être à part. C'est que je considère vraiment, alors je le dis, que... Dans le XXe siècle, sur ce terrain-là qu'est la sexualité, les écrits des femmes sont... Je parle de Catherine, mais il y en a d'autres. Il y a Colette, par exemple, ou d'autres. Elles vont beaucoup plus loin. Elles sont beaucoup moins... elles sont beaucoup plus libres. C'est ça aussi la différence sexuelle, peut-être. Il y a quelque chose... Quand je dis qu'on est des gros nounours, c'est vrai, on a un côté... D'abord, la peur de la castration. Aïe, 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 ça c'est un truc, ça pour un mâle, c'est important. Et donc, sur le plan littéraire, je trouve qu'on a... Moi, je dis par exemple le livre de Catherine Millet, hein, je ne fais pas de la pub pour elle, c'est pas parce que c'est ma femme, mais je dis qu'il n'y a pas l'équivalent masculin, et je dis même que cet équivalent masculin ne peut pas exister. On ne peut pas avoir cette liberté-là.
C'est pas lié aussi au fait que la femme peut avoir un désir infini et des jouissances quasiment sans limite, alors que l'homme est plus limité dans ses capacités.
Non, vous avez raison, c'est ça aussi. Bien sûr,
il y a une infinité.
Le régime sexuel n'est pas le même.
Voilà.
Nous, il faut qu'on puisse assurer.
Ouais.
La femme, elle peut être disponible, même si elle... Non, je ne vais pas faire...
Vous ajoutez une belle phrase aussi. « Ma conviction déjà ancienne... et qu'il est un domaine où tout le monde ment, le sexe, moi compris, bien sûr. » Alors, c'est quoi ce mensonge sur le sexe?
Bah, écoutez, on a toujours tendance, moi je vois par exemple, faudrait que je prenne mon exemple là, moi, comment je traite ça. Je pense, alors franchement, sans vendre ma marchandise, mais je pense que sur ce terrain-là, je vais beaucoup plus loin que Solers, par exemple. Par exemple, Solers, il a une, alors il a cette réputation d'être un homme de libertin. Bon, alors libertin, peut-être libertin pour un peu draguer comme ça, etc. Sur le plan sexuel, si on lit les livres de Solers, je ne sais pas si vous les avez lus,
oui,
il n'y a pas grand-chose. Il n'en parle pas. Il parle, c'est toujours un peu des trucs un peu, oh oui, j'ai connu une jolie femme, etc. Il a une correspondance avec sa maîtresse formidable, comment elle s'appelait
Dominique Rollin.
Dominique Rollin. Bon, il y a deux volumes de correspondance amoureuse avec cette femme que j'ai bien connue aussi, qui mettait évidemment Kristeva, la femme de Solers, dans des états pas possibles, on peut comprendre. Hein. Mais il n'y a pas.
Ça, c'est très chaste.
Un poil de cul qui dépasse de sexe. C'est rien. Bon, le sexe, zéro. Bon. Alors, moi, je pense que c'est important quand même. Parce que Solers, il a une théorie qui, à mon avis, est bonne. Il dit, ah, mais moi, je regarde un livre, je reçois un roman, je regarde la scène sexuelle. C'est bon ou c'est pas bon? Si c'est pas bon, le livre est mauvais, je ferme. Oui, mais malheureusement, je ne veux pas être méchant, mais ça serait... On peut dire ça pour lui. Moi, si je regarde un peu de la façon dont il parle des sexes, ça ne marche pas. Alors, bon, moi, j'en sais rien, je ne vais pas juger. Je pense que, par exemple, quand même, mon dernier livre qui s'appelle « La nuit folle », où je parle beaucoup de c'est un livre que j'ai publié au Seuil, qui a mal marché, je n'ai pas eu de presse. À mon avis, c'est mon meilleur livre. C'est autour du poète Joé Bousquet. Et d'ailleurs, le Art Press qui paraît là en ce moment, c'est un grand entretien avec un homme extraordinaire qui a fait une biographie de Joé Bousquet. Joé Bousquet, c'est un poète qui est très peu connu, qui est méconnu en France. Enfin, je sais pas si vous lisez beaucoup Bousquet.
Non.
Eh ben ouais. Il y a les surréalistes, il y a Éluard, il y a tous ces gens-là. À mon avis, toutes ces œuvres à côté de celle de Bousquet n'existent pas. C'est une des grandes œuvres méconnues aujourd'hui. Bon. Et moi, pour des raisons d'ailleurs, différentes raisons, j'ai été lié à. Non pas, je n'ai pas connu Bousquet, puisqu'il est mort bien. C'était dans les années 50. Vous savez, c'est cet homme qui a été blessé à la fin de la guerre, vers 1918, dans les derniers mois de la guerre. Il est blessé. Par une balle qui lui touche la colonne vertébrale, et cet homme donc devient impuissant sexuellement et paralysé. Et cet homme, sur lequel il va y avoir, je vous le dis parce que ça va paraître, 3 volumes de 500 pages sur sa biographie, il a passé sa vie couché dans une petite chambre à Carcassonne, parce que, bon, et puis là, il y avait tout Paris qui venait, il y avait... Paulan, Gide, Valérie, donc ça prouve que c'était vraiment un personnage important, qui venait le visiter. Mais lui, il était dans... Et il va y avoir une biographie de 3 fois 500 pages, parce que tout ce qui a été dit sur sa biographie, c'est là où on voit quand même que les biographes ont mal fait leur travail. Tout est faux, ce qui a été dit sur Bousquet. Bon, alors là, la sexualité, chez Bousquet, ça joue un rôle aussi très important. Il était impuissant et néanmoins... beaucoup de choses de sa biographie touchent au sexe, et de façon très importante. Et donc c'est un homme impuissant. Bah, peut-être qu'il était moins gêné que nous pour parler de ça.
Alors, bon, sur Solaire, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce qu'il y a des pages de romans où il a des scènes d'amour avec sa femme, Julia Kristeva, qui est sous un pseudonyme. Il a aussi des romans basés avec ses relations avec ses maîtresses, où il fait des kilomètres pour... de nuit en voiture, rejoindre sa maîtresse qui a imaginé un scénario. Donc, je trouve qu'on pourrait trouver pas mal de pages où il parle de sexe, et il en parle plutôt bien. Bon. Alors, vous livrez sans fausse pudeur les détails de votre intimité, hein, de votre vie sexuelle très libre, comme votre compagne Catherine Millet, ce qui est toujours salvateur en période d'hypocrisie puritaniste, qui revient étrangement. Mais pourquoi livrer dans votre journal l'intimité des autres, la sexualité des autres, leur vie privée? Est-ce qu'ils n'ont pas le droit à garder ça secret?
Écoutez, je vais vous dire, moi, quand j'ai eu des aventures féminines, les jeunes femmes qui... souvent, je le dis, c'est pas tellement moi qui les draguais, je le dis. Peut-être que ce qui jouait quand même, c'est qu'on était connus un peu, on écrivait des livres. Bon, donc, les jeunes femmes qui venaient et qui se sont... qui ont connu ma vie, qui y ont participé, elles auraient dû savoir que quand on est avec un écrivain, il faut faire attention. Si on ne veut pas avoir de vie privée qui soit mise au jour, alors on va faire, on trouve un charcutier, ou etc., mais pas un écrivain. Un écrivain, c'est comme ça.
Mais là, vous livrez l'intimité des gens avec leur nom et des gens connus. C'est ça la différence.
Alors, je livre les noms quand c'est vraiment que je sais que ces jeunes femmes sont, au contraire, elles sont très contentes, certaines que je parle d'elles. Il y en a d'autres sûrement, mais les autres, je mets que les initiales. Et bon, mais la vie. Qu'est-ce que je peux dire ? Bien sûr que je peux me dire, mais c'est pas bien. Je touche à
la vie privée.
À la vie privée. Mmh. Oui.
Alors c'est pas seulement la sexualité. Moi c'est l'autre chose qui m'a dérangé.
Je prends les précautions.
L'autre chose qui m'a dérangé aussi, c'est que vous livrez aussi de l'intimité de la santé des gens. On est au courant des hémorroïdes des uns, du cancer de l'anus de l'autre, des problèmes de dentier, des obsessions scatologiques de gens connus que je ne vais pas citer parce que je ne veux pas relayer ce que vous avez fait. Mais est-ce que ça pose pas problème ? Est-ce qu'il n'y a pas un problème là-dessus sur le fait de livrer l'intimité au niveau de leur santé ?
Moi, le journal, vous comprenez ce que mon projet, c'était pas de parler de ces auteurs qui sont maintenant des personnages un peu sacres, pas sacrés, mais ben voilà, Guyotta, Solaire, c'est vraiment bon, bien. Moi, je veux montrer que ces gens qui ont fait ces livres, qu'on admire, eh bien, c'était des hommes, c'est-à-dire des humains, c'est-à-dire qu'ils avaient tous les défauts, ils étaient lâches, ils pouvaient être méchants, ils pouvaient... Je voulais montrer l'humanité de ces gens-là. Et je pense que montrer l'humanité de ces gens-là, dont les scènes que vous évoquez, c'est déjà montrer déjà un lien avec leur œuvre. Bon, si ces gens vivaient avec des gros problèmes, il y a quelqu'un qui est, à mon avis, le plus important dans les gens dont je parle, c'est Guyotta pour moi. C'est le plus fort littérairement, etc. Bon, je parle de... Il y a des scènes assez rigolotes avec des histoires de tapioca que je raconte sur Guyotta. Alors évidemment, je peux vous dire que là, tous les amis de Solers, ceux qui vivent encore, eux sont morts. C'est silence radio. Il n'y en a pas un qui vient me dire, mais ou alors il pourrait m'attaquer, me dire, mais attendez, c'est pas...
Alors, dans le cas du Guyotta, en plus, il n'en a pas fait secret dans son œuvre. Dans son œuvre,
Raconté comment il se masturbait, comment... Voilà. Je trouve ça normal. Et puis, Solers aussi, d'ailleurs.
Mais vous voulez montrer l'humanité de ces grands hommes, soi-disant, mais vous connaissez sans doute la phrase de Goethe, on prétend qu'il n'y a pas de héros en face de son valet de chambre. C'est qu'un héros ne peut être compris que par des héros et que les valets de chambre ne savent apprécier que leur pareil.
Oui, mais l'ennui, c'est que moi, je ne suis pas un valet de chambre. Je suis dans le coup. C'est-à-dire que je suis d'égal à égal avec ces gens-là. Je ne suis pas le valet qui regarde par le trou de la serrure. C'est montagne, il y a des passages de montagne aussi là-dessus. Bon.
Oui, c'est tiré de montagne, déjà.
Je n'ai aucune culpabilité d'avoir parlé de ces gens comme j'en parle. Et je dis simplement que si demain... Parce qu'il faut quand même dire une chose, c'est que ces gens, comme Solaire, et même Pierre Guyotta et d'autres, ils ont parlé d'eux. Ils ont fait des autobiographies. Mais elles sont bidons, souvent. Elles sont bidons. C'est-à-dire que... Bon, alors, dans un roman, OK, on peut dire, mais c'est un roman. Mais quand qu'ils passent directement à l'autobiographie, ce qui est le cas, quand même, dans le cas de Guyotta, mais lui, il dit ce qu'il a à dire, on peut leur dire, écoutez, voilà, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Enfin, bon, voilà. Je suis pas un dresseur de tort, Alors, je ne sais même pas pourquoi j'ai fait journal, en fait.
Oui, alors, c'est la question du journal, en fait. La question qui se pose sur le journal, c'est qu'a priori, quand c'est écrit, ce n'est pas fait pour être édité. Et c'est censé éventuellement être édité après la mort des gens, ou la mort de l'auteur. Mais c'est toute la question du journal, parce que nous on apprécie les journaux d'écrivains, c'est très précieux. Je ne connais pas un auteur dont on aime le travail, on a tout de suite envie d'aller voir son journal, savoir comment il vit, comment il écrit, comment il crée.
Moi, je suis très...
Bien sûr, on est tous friands de ça. Mais souvent, c'est des années après leur mort que ça paraît. Là, on assiste parfois, que ce soit avec Nab, avec Zach Dansky, ou des gens comme ça, qui sont peu élevés d'un point de vue moral, qui n'ont pas de grandeur d'âme, ils écrivent directement leur journal pour le publier très vite. C'est ça le problème chez eux.
Bon, moi, dès la préface de mon journal, je dis exactement les choses. C'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi j'ai écrit journal. je n'ai pas pensé à la postérité du tout, et je n'ai même pas pensé à un truc qui serait publié. Je dis, dès le début, c'est l'histoire avec Jean Genet. C'est parce qu'il y a eu une soirée avec Jean Genet, Paul Thévenin me dit, vous allez partir avec Jean Genet, et voilà. Et pourquoi, justement, un jour, j'aurais pu le tenir 10 ans avant, moi, ce journal. Je note, voilà, Jean Genet. Et puis après, c'est parti. Si j'avais voulu... Que ce journal soit même publié, j'aurais fait ce que je n'ai pas fait, c'est-à-dire que je n'aurais pas écrit des milliers de pages sur du mauvais papier, avec une mauvaise encre, avec une écriture. Quand on a voulu transcrire mon journal, mes notes, l'IMEC, qui est un peu l'équivalent de Bibliothèque Nationale, m'avait dit, on va le faire, quelqu'un va le faire. Et le type de l'IMEC qui est passé, je lui dis, regarde, tu arrives à lire? Ah, il me dit, non, c'est illisible. Ben, j'ai dit, mon vieux, moi, j'arrive même plus à lire. Et ce que je dis dans le début, c'est que j'ai passé 2 ans avec une loupe quelquefois pour... Alors, si j'avais voulu publier ce journal... Je me serais pris autrement. Alors, il y a des gens, moi, j'ai un ami qui fait un journal qui est beaucoup plus littéraire, qui est très beau d'ailleurs, mais c'est impeccable. Et lui, il fait tout ce qu'il faut pour que le journal soit publié. Moi, ce n'était pas mon cas. Il se trouve que, voilà, je l'ai fait comme ça, et puis donc, je l'ai livré comme ça. Il faut dire, je dis problème d'édition, c'est un miracle que ce livre soit publié. C'est un miracle. Normalement, j'aurais pas pu le publier s'il n'y avait pas eu des rencontres. Des fois, vous parliez d'un galeriste. Bon, ben moi, ça a été un éditeur. Voilà. Voilà. Et avec lui qui pouvait publier, c'est une amie qui m'a dit, c'est peut-être à lui qu'il faut... Ce monsieur dirige maintenant des éditions Plon, c'est paru chez Plon. Je ne pouvais plus... Parce que tous ces écrivains dont je parle, c'était des gens qui ont tous publié au Seuil et chez Gallimard. Donc, il n'était pas possible que mon journal paraisse chez un autre éditeur qui n'ont rien à foutre de nos histoires. Donc, ça pouvait être Le Seuil. Le Seuil, j'étais en bagarre avec eux très violemment, notamment avec le type qui dirige la collection Fiction et compagnie, avec qui je me suis fâché. Donc, puis j'en avais marre du Seuil. Il y avait l'extrême gauche qui était là, tout ça. Alors là, pour moi, il fallait que je me barre de ça. Et puis, Gallimard, il y a une amie qui a travaillé chez Gallimard qui me dit, mais... Elle était d'ailleurs, c'est elle qui dirigeait Gallimard à un moment, je ne vais pas donner son nom là. Elle me dit, mais je vais le donner à Antoine Gallimard. Je lui dis, écoute, s'il te plaît, c'est absurde, parce que si tu le donnes à Gallimard, je suis obligé de couper la moitié de mon journal. Parce que alors, sur Gallimard, j'en mets un paquet. Ouais, hein, bon.
Sur Gallimard,
c'est
salaire.
Elle m'a dit, mais je vais essayer. Ça, ben, je dis, si ça t'amuse. Alors, elle est allée voir Antoine Gallimard. Est-ce que tu ne veux pas publier le livre de ce journal Jacques-Henri alors Antoine Gallimard. Oh, ben, tu sais, je suis âgé. Je suis fatigué et je ne veux pas voir tous les matins des demandes de rectification, éventuellement des demandes aussi d'avocats, etc. Donc, quand elle m'a dit ça, j'ai dit, tu vois, si elle, il avait dit oui, il fallait que je coupe tout. Donc, je passe sur les deux maisons d'édition qui auraient pu être les miennes et il a fallu j'en trouve une troisième par le hasard et ça a été plomb. Voilà.
Alors heureusement, dans votre livre, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que l'intimité des autres, il n'y a pas que des gens connus dans leurs aspects triviaux au quotidien. Il y a surtout l'aventure d'Art Press avec Catherine Millet. Ouais. Alors on l'oublie souvent, à la fin des années 80, entre les années 80 et 90, donc ce journal défend l'art contemporain, du presque 30 ans. Et on a l'impression que ce combat n'est jamais gagné, parce que ça a été attaqué par la Nouvelle Droite, notamment par des gens comme Jean Clerc, Alain de Benoît, Fumaroli, mais aussi Baudrillard. Donc ça a été... c'est jamais acquis, c'est jamais gagné, en fait, la liberté
non,
de création.
Non. Faut dire que moi, j'avais une position un peu bizarre dans ce journal, parce que moi, j'ai fait un livre qui s'appelait « La peinture et le mal », qui est un livre assez polémique, qui était une réflexion sur l'idée du mal. Je reprenais un peu les histoires de bataille, mais en peinture. Et moi, j'étais, pour les gens d'avant-garde, et Catherine Millet compris, j'étais un réactionnaire. Parce que moi, j'ai attaqué violemment ce qu'on appelait l'art contemporain, violemment même la peinture surréaliste. Bon, je ne sais pas ce que j'ai fait de mieux, mais en même temps, et pour défendre une peinture. Moi, je défendais la peinture où il y avait des images et tout ce qui était abstrait, tout ça, c'était pas mon truc, quoi. Alors, quand Catherine travaillait sur Yves Klein, quand on déjeunait, elle était là avec son truc sur les... Moi, à Art Press, j'étais... j'étais pas dans le coup, moi, du point de vue artistique. Hein. Cela dit, je faisais ce que je voulais, bien sûr, mais j'étais un sale réac. Parce que je défendais la peinture figurative, moi j'aimais bien les images, etc. Bon, mais...
Non, mais quand il y a eu ces attaques-là de Alain de Benoît, de Baudrillard, vous avez choisi votre camp.
Ah bah, oui, mais là, alors là, ça jouait sur des trucs graves, là, très graves quand même. Alain de Benoît, c'était quand même le néo-nazi. Il est toujours là. Hein. Ouais. Et Libération, d'ailleurs, il n'y avait pas si longtemps, faisait un entretien avec Alain de Benoît, comme si c'était un personnage très, très respectable. C'était vraiment des gens d'extrême droite. Là, il y a beaucoup de pages de bagarres avec ces gens-là.
Ouais, ouais.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Donc, on l'a dit, vous avez vécu la fin de la Révolution, en tout cas, l'espèce de désenchantement. Sont arrivés le cynisme des années 80, le nihilisme des années 90, et là on assiste à un retour d'ordre moral terrible. Comment voyez ça avec le recul ?
Même avec des gens de ma génération, on dit mais c'était inimaginable ce qu'on est aujourd'hui. C'est inimaginable.
Ce retour en arrière.
Non, mais parce qu'il y a le puritanisme, il y a tout ça, mais il y a aussi des gens qui sont tués. Je veux dire tués, pas forcément physiquement, mais qui ne peuvent plus. Des cinéastes qui ne peuvent plus faire des films. Il n'y a pas longtemps, on recevait à dîner, je ne sais pas si vous voyez, qui était Philippe Cobert.
Oui, bien sûr. Ouais. Homme de théâtre.
Formidable.
Qui était capable de venir trois heures seul sur scène, formidable, à jouer 50 personnages.
Formidable. Oui, et maintenant, Philippe Cobert, il est tué. Il ne peut plus rien faire. Il ne peut plus travailler. Et il y en a plein comme ça. Doyon, tous ces gens-là, ils ne peuvent plus travailler. On les a tués, ces gens.
Et pourtant, vous avez aussi connu, on a parlé du féminisme, vous avez connu cette lutte des femmes dans les années 60, et vous y avez participé d'une certaine manière avec Catherine Millet, en éditant des livres de femmes et en défendant la sexualité des femmes, le désir des femmes, l'idée
des
femmes.
Numéros spéciaux.
Voilà, c'est ça.
Oui, bien sûr.
Et donc, vous voyez un parallèle, à un moment, vous dites, il y a un virement stalinien dans le féminisme.
C'est stalinien, c'est des gardes rouges. Hein,
les nouveaux chiens de garde.
C'est effrayant. Ouais. Et vous savez, Catherine, par exemple, elle est interdite, elle ne peut pas entrer à l'école des beaux-arts. Elle était invitée il y a peu de temps à faire un entretien dans une école des beaux-arts, je crois que c'était, je ne sais plus quelle grande capitale, à Montpellier. Il y a eu une pétition qui a été faite pour qu'elle ne puisse pas venir. Ils font des travaux de policiers, hein. C'est-à-dire que tous nos engagements, et surtout les engagements de Catherine, la défense, encore récemment parce qu'on avait signé pour défendre Depardieu ou des trucs, tout était noté. Et alors, des affiches dans l'école des Beaux-Arts, et Catherine interdite de faire. Voilà la situation. Là.
Alors,
on s'en fout, mais...
Non, mais c'est intéressant de faire un parallèle, comment un mouvement d'émancipation absolument légitime peut se retourner contre lui-même.
Mais ça, c'est pas nouveau. Hein. La Révolution française, on a connu ça. Hein.
Parce
qu'il y a eu 89, puis il y a eu 93, et puis la guillotine. Ouais. Non, mais c'est un phénomène, hélas, fréquent. Hein.
Alors, il y a aussi ce qui apparaît dans votre livre et qui est beau, c'est votre histoire d'amour avec Catherine Millet. Donc, une vie partagée dans la création, dans l'amour. Et puis, il y a aussi deux personnages qui reviennent très souvent, qui sont des figures majeures en dehors de votre femme, c'est Philippe Soler, c'est Pierre Guyotat. J'ai l'impression que c'est les deux personnes qui ont le plus compté pour vous.
Bah, écoutez, c'est ceux que j'ai pendant 60 ans. Vous vous rendez compte, 60 ans.
Et donc vous disiez Pierre Guyotat, pour vous, c'était le plus fort,
ouais,
au niveau de l'écriture.
Oui. Ouais, ouais.
Le plus radical.
Il écrase.
Et même quand il crée sa langue, il crée sa propre langue, alors, vous le suivez ou pas ?
Non, c'est compliqué. Mais moi, là aussi, j'étais pas d'accord avec Soler. C'est parce que quand Pierre Guyotat a fait ce qu'il appelait les livres en langue, c'est-à-dire ces livres, il faut bien dire, illisibles. Franchement.
Moi, je les ai lus. Hein.
Vraiment ?
Oui, vraiment.
Prostitution ?
Oui, tout ça. Oui.
Bravo.
Oui.
Bravo. Un bon point. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Une fois, c'est...
Il faut les lire à haute voix. Sinon,
oui,
ça ne marche pas.
Oui, c'est vrai. Mais enfin, bon, Soler, tout de suite, il a attaqué bêtement.
Il l'a accusé de formalisme, grosso modo.
Oui, mais c'était con, ça. Ouais. C'était très con. Moi, je lui ai dit à Soler, c'est écoutez, d'accord, c'est difficile, il s'en moquait, hein, souvent. En fait, il l'aimait bien, il s'aimait bien, mais voilà. Mais il y avait des égos quand même, hein,
Ah, oui, oui, c'est ça.
Et,
oui.
Puis ces égos, ils étaient... Vous savez, dans les bagarres, vous avez les gens autour qui poussent. Ah ouais, tu sais, et ça donne des brouilles violentes. Bon. Moi, j'avais dit à Solars, il faut le laisser. C'est une expérience pour lui, cette écriture là, que vous dites ne pas comprendre ou dont vous vous moquez. C'est parce qu'il a besoin de le faire. Et il reviendra aussi avec des grands textes. C'est ce qui s'est passé,
d'ailleurs. Avec Coma, Vivre...
Oh, Coma, c'est formidable. Bien sûr.
Qui ont très bien marché, qui ont eu des prix, ça vendait bien.
Bien marché, bien sûr. Et puis, vous savez, je parlais de ça récemment avec un ami architecte qui venait de lire Guyotta. La musique, la connaissance de la musique et la connaissance de l'histoire, c'est incroyable. On lui a fait faire des cours. Dans une université à des étudiantes de l'étranger sur la littérature française. Il improvisait, il avait quelques notes. Si vous lisez le volume de ses cours, mais c'est incroyable, incroyable la connaissance. Mmh. Toute la poésie du Moyen-Âge, il connaissait ça par cœur. Il avait une connaissance, et pareil pour la musique, et pareil pour l'histoire. Moi, je l'ai vu discuter avec des historiens, et c'était lui qui connaissait. Non, il est exceptionnel. Hein. Bon, voilà.
J'ai l'impression que dans votre livre, dans votre journal, ce qui ressort, c'est que l'amour pour Catherine, l'amitié pour les artistes et les auteurs, l'emporte toujours sur les infidélités. Qu'elles soient sexuelles ou esthétiques.
Ouais, vous savez, puisqu'on parle de mes liens avec Catherine, elle a fait La vie sexuelle de Catherine M, mais elle a fait aussi un autre livre qui s'appelle où elle raconte toute sa jalousie. Ça a été 2 ans d'enfer. Et dans mon journal, moi, j'en parle aussi.
Oui, vous en parlez très clairement.
Alors, c'était impensable, cette femme qui a vu cette vie sexuelle et qui venait m'emmerder parce que j'avais 2-3 histoires avec des femmes. Je lui dis, mais Catherine, mais c'est un sens. Mais c'est ça, la jalousie, il faut relire Proust, c'est impossible. Impossible. Moi, j'ai souvent dit, franchement, quand on voit les grands couples de l'histoire. Je ne vais pas me comparer ni à ceux de Sartre, Beauvoir, ou Aragon, Elsa Triolet. Je pense que le couple qui existe encore, avec nos vies sexuelles, et l'amour néanmoins qui a toujours été là, c'est quand même, je crois, un peu exceptionnel. Parce que si on regarde comment fonctionnait Sartre, Beauvoir, ou, je ne sais pas, Camus avec l'actrice de cinéma, j'oublie son nom,
Maria Cazares,
ou Aragon, Elsa Triolet, enfin, les poèmes d'amour, etc. Je veux dire que nous, c'est quand même un peu exceptionnel, je dois dire, franchement. Et ça a tenu le coup au milieu de, quand même, des fois, de moments
très... Et en amitié, c'est pareil, un peu, il y a des artistes avec lesquels vous fâchez. Finalement, vous disiez, on l'aime bien, finalement, Catherine et moi. Vous répétez ça 2-3 fois sur 2-3 personnes et on voulait...
C'est vrai, ils aiment bien. Même Muret qui nous a craché pendant des flots de merde, je garde, moi, ce qui était bien chez les gens.
Alors, vous terminez votre journal par des figures plutôt positives de cathos guerriers, de prêtres lettrés et engagés, par vous-même jouant le confesseur de Louis XIV dans le film de Albert Serra, face à Jean-Pierre Léo.
J'ai passé pendant plusieurs semaines à tourner avec Jean-Pierre Léo. Ah oui, oui. D'ailleurs, je crois que mon journal se termine là-dessus.
Oui, c'est ça. Et donc, c'est plutôt des figures positives du catholicisme, entre guillemets. Est-ce que chasser le naturel mystique, il revient en galop, ou le sacré prend la porte, mais il revient par la fenêtre?
De toute façon, le sacré, il sera toujours là. On peut faire tout ce qu'on veut. Ça prendra plusieurs formes. Des religions traditionnelles, ou alors mais je crois que l'humain ne peut pas s'en passer.
Merci beaucoup, Jacques-Henri, d'être venu parler de
l'émission. Je voudrais juste dire que Gide et Léoto publiaient leur journal de leur vivant. Et c'était très violent par rapport à leurs contemporains. Donc, en ce sens-là, votre journal est très juste et vous avez bien fait de le publier maintenant. Et je vous en remercie. Il nous apprend beaucoup de choses. Mmh. Et moi, qui suis un grand fan des journaux, il est juste sur son appréhension du réel. Il ne s'agit pas de faire la morale ou je ne sais pas quoi. Non, c'est juste. On raconte des choses anecdotiques et c'est ça qu'on aime bien. C'est quand Léoto, il dit du mal de ce qui se passe au Mercure de France. On aime bien ça, et quand même Apollinaire lui dit la chanson du mal-aimé, et on aime bien aussi, et c'est formidable. Merci d'être venu à vous deux,
Et merci à Lucas Penture et à René derrière la vitre.
Merci de votre accueil.
Ben voilà. Merci.
Écoutez Aligre FM 93.1.